Il est 12h30 sur France Culture. Les informations, Ludovic Piétenu. Bonjour Ludovic.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Des dizaines de milliers de manifestants autour du bassin de l'Arsenal à Paris. Ce sera l'image du jour, cette manifestation parisienne finalement autorisée sur un parcours inédit de Bastille à Bastille sous très haute surveillance. Départ du cortège dans 1h30. Nous y retrouverons notre reporter Violette Voldoir. Sur le fond de ce projet de loi travail, François Hollande réaffirme à l'instant sa fermeté. Nous irons jusqu'au bout, dit le chef de l'État avec Frédéric Seyss du service politique. On interrogera le rapport de force entre le gouvernement et les syndicats après plusieurs jours de bras de fer et d'hésitation. On ira aussi outre-Manche en ce jour de vote référendum pour le maintien ou la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne. On entendra quelques électeurs britanniques avec le reportage de Catherine Dutu. Nous lirons les gros titres, les unes de la presse avec notre correspondant Franck Madvon, avec qui nous évoquerons aussi les deux scénarios, maintien ou sortie. Ce sera aussi notre sujet d'entretien avec l'invité du jour, Christian Le Ken, professeur à Sciences Po et chercheur au CERI. Et puis viendra le temps de la deuxième partie de la grande table, Caroline Brouet, avec votre invité.
Avec notre invité, qui seront deux aujourd'hui? Deux invités pour parler d'un auteur. Connaissez-vous Erwin Goffman, Ludovic?
Pas du tout, je dois l'avouer.
Eh bien voilà, ça sera le sujet, l'objet de cette dernière partie. Erwin Goffman, mais qui était Erwin Goffman? Nous le saurons en compagnie d'Yves Wincan et de Raymond Depardon, qui lui le connaissait bien.
C'est selon la définition qui convient une manifestation quasi statique et sous très haute surveillance surtout. Je vous propose sans plus attendre de nous rendre place de la Bastille, retrouver notre reporter Violette Voldoir. Bonjour Violette. Violette Voldoir en direct de la place de la Bastille et de cette manifestation parisienne contre la loi travail. Vous nous racontez à quoi ressemble le secteur et ce qui a été fait au préalable avant que ne démarre cette manifestation?
Alors ici, les rideaux de fer sont tirés. Pour la plupart, les abribus ont également été recouverts de panneaux de bois pour les protéger. Les plaques qui protègent les racines des arbres, vous savez, sur les trottoirs de Paris, ont été retirées. Retirées aussi les voitures garées autour de la place de la Bastille ainsi que les péniches du bassin de l'Arsenal. Tout ce qui pourrait donc servir de cible ou de projectile aux manifestants, de tête de cortège, vous savez, ces cortèges qui comptent de nombreux casseurs plus ou moins organisés, tout cela a donc été retiré ou protégé des éventuelles violences. Et même les manifestants eux-mêmes ont pour consigne de venir habillés légers, et ce n'est pas à cause de la chaleur, non. Pour la première fois, le préfet de police, Michel Cadot, a ainsi demandé aux manifestants de venir sans sac à dos. Mais avec ou sans sac, ils seront de toute façon fouillés pour pénétrer dans la zone sécurisée par de nombreux rubans rouges et blancs. Cette zone où j'ai moi-même été fouillée en arrivant assez rapidement, il faut le dire, par des policiers malgré tout très très présents hein, dès la sortie des stations de métro. Des mesures exceptionnelles voulues par Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui a été très ferme dès hier. Aucune violence, aucun débordement ne sera toléré, a-t-il réaffirmé quelques heures seulement après avoir finalement autorisé cette manifestation, Ludovic.
Violette, des manifestants fouillés, vous nous l'avez dit, fouillés par plus de 2000 policiers pour encadrer ce cortège.
Oui, c'est un dispositif très important ici pour une manifestation qui finalement va faire un parcours assez réduit. Dans un premier temps, cette manifestation avait été interdite, je vous le rappelle, et puis finalement autorisée avec un parcours de 1,6 km qui fait une boucle. C'était censé être prévu pour un dispositif moins consommateur en effectifs policiers, moins consommateur que lors des dernières manifestations. Et la difficulté de ce trajet, assez inédit hein, dans l'histoire des manifestations, il faut le dire, puisqu'il démarre de Bastille pour y revenir et qu'il chemine en boucle le long des bassins de l'Arsenal, c'est que les rues y sont plus étroites que sur un parcours classique qui emprunte de larges boulevards haussmanniens d'habitude. D'ailleurs, la préfecture de police de Paris a prévu des canons à eau pour disperser la manifestation en cas de débordement, mais elle ne va pas les prépositionner le long de ce parcours car il serait alors trop proche des immeubles et des habitants. Vous voyez la difficulté. Et puis il y a aussi un risque d'engorgement place de la Bastille. Le préfet appelle d'ailleurs tous les manifestants à se disperser dès leur arrivée en fin de parcours sur cette fameuse place de la Bastille.
Violette Voldoir, peut-être avez-vous eu le temps d'interroger quelques manifestants et de cerner un peu l'état d'esprit qui est leur après cette séquence, le moins que l'on puisse dire, compliquée entre les autorités et les syndicats pour organiser cette manifestation?
Alors oui, même s'il y a peu de manifestants encore sur la place, hein, il y en a quelques centaines sous un soleil estival et déjà assez chaud, sous quelques ballons rouges de Force ouvrière également. Mais le sentiment qui prédomine, c'est l'agacement. Hein. Trop de policiers, c'est trop de pression et ça, c'est vraiment mauvais dans une manifestation. Me disait tout à l'heure un manifestant justement que j'ai croisé à la sortie du métro et qui se rendait sur la place de la Bastille.
Merci Violette Voldoir en direct de la place de la Bastille à Paris avec les moyens techniques d'Éric Audra. On peut refaire brièvement le film de la semaine, une manifestation interdite puis autorisée mais raccourcie, tout cela après la proposition d'un rassemblement statique. Bonjour Frédéric Seyss.
Bonjour Ludovic.
On a eu ce cafouillage, on a à l'instant aussi, je le signalais dans les titres, cette fermeté rappelée une nouvelle fois par le chef de l'État François Hollande qui déclare « nous irons jusqu'au bout sur ce projet de loi El Khomri ». En tout cas cette séquence de la semaine, ce cafouillage qui permet aux syndicats de dire qu'ils l'ont emporté, qu'ils ont fait plier le gouvernement. Comment comprendre toutes ces hésitations ?
Cette fermeté contraste avec les derniers jours qu'on a vécu. Il y a en fait trois lignes au sein du gouvernement. Manuel Valls, qui depuis les débordements de la manifestation du 14 juin, était partisan d'interdire les cortèges. Il avait d'ailleurs pris prétexte de la casse sur la façade de l'hôpital Necker en dramatisant les faits pour faire passer son message. C'est la ligne qui est d'abord retenue à tel point que le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, la réitère hier midi. Sauf qu'au même moment, Bernard Cazeneuve, lui, est enfermé avec les représentants des organisations syndicales. Le ministre de l'Intérieur est partisan de la négociation. Ses interlocuteurs le décrivent d'ailleurs comme un attentif et de bonne volonté. Et c'est à ce moment qu'est trouvée la solution de la place de la Bastille. Et puis enfin, il y a François Hollande, soucieux de ne pas apparaître en censeur à moins d'un an de l'élection présidentielle. Il veut aussi ne pas froisser son Premier ministre. Il choisit donc de ne pas choisir jusqu'au dernier moment et de ne pas s'impliquer. Il fait dire par son entourage que la décision d'interdire la manifestation est du seul ressort de la préfecture de police. Tout cela sans anticiper l'ampleur du tollé, sans voir que ce qui est présenté comme une décision administrative a forcément un retentissement politique très fort, une portée quasi historique, rétropédage donc. Le chef de l'État donne son feu vert au compromis trouvé par son ministre de l'Intérieur. Après coup, les proches de Manuel Valls vendront d'ailleurs aux journalistes un autre scénario. La menace de l'interdiction n'était en fait qu'un coup de bluff, disent-ils, afin de pouvoir peser sur la négociation avec les syndicats, un scénario qui n'est toutefois confirmé ni à l'Élysée ni au ministère de l'Intérieur. Alors qu'est-ce que cela traduit brièvement ? D'abord, à court terme, la volonté du gouvernement de ne pas endosser la responsabilité de nouvelles éventuelles violences. S'il y en a cet après-midi, nul doute que l'exécutif y verra la démonstration qu'il fallait bel et bien interdire la manif. Il y a ensuite évidemment le syndrome de la méthode hollandaise, ne pas prendre de décision avant d'y être acculé, puis trancher au milieu. Cela donne cette manifestation ni vraiment statique, ni vraiment en mouvement. Il y avait eu avant cela mis l'exemple de l'affaire Leonarda à la nationalisation du site de Florange. Et puis enfin, politiquement, cela traduit l'isolement du gouvernement, pris en sandwich, accusé à sa droite d'être laxiste, accusé à sa gauche d'être liberticide. Tout cela pour finir avec cette solution médiane qui ne satisfait finalement aucun camp.
Analyse politique de Frédéric Seyss. Je vous renvoie au site de France Culture, en particulier à cet article à la une depuis hier soir sur l'histoire du droit de manifester avec un très judicieux choix d'archives de Charonne. On en parlait ici même hier dans ce journal à la loi travail, une brève histoire du droit de manifester. C'est à la une de franceculture.fr.
Une pluie très traditionnelle tombe sur toute l'Angleterre.
Je vous demande de faire la météo, Caroline. C'est cliché, c'est cliché. Mais c'est pourtant, ce jour de scrutin, la météo outre-Manche. Jour de référendum pluvieux pour le maintien ou pour la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne. 43 ans après son adhésion, les bureaux de vote ont ouvert à 8h, heure de Paris, et ils fermeront à 23h ce soir, 22h, heure britannique. On retrouve en direct de Londres notre envoyée spéciale, Catherine Dutube. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Vous êtes rendu ce matin dans un bureau de vote du quartier chic de Kensington.
Et précisément à la St. Columbus Church, une église transformée en bureau de vote. Isoloir près des colonnes en pierre blanche. À la sortie, Marc, 62 ans, sourit sous son parapluie.
I work for government, which is a bit strange, given my opinion.
Lui qui travaille pour le gouvernement s'amuse d'avoir coché la case « sortir de l'Union européenne ». Une évidence pourtant pour Marc, inquiet face aux 8,5 millions d'immigrés au Royaume-Uni, deux fois plus qu'en 1990, soit 13% de la population totale.
Ce qui compte pour moi, c'est notre souveraineté, le contrôle de nos lois et de notre destinée. Je pense que nous devrions mieux contrôler qui entre chez nous. Moi qui ai aussi la nationalité australienne, je trouve que le modèle australien est efficace. Tout le monde peut venir, à condition d'avoir les compétences nécessaires. En cas de Brexit, les Européens devraient encore pouvoir venir s'ils ont un savoir-faire. Nous n'empêcherions pas les médecins ou d'autres personnes compétentes de venir chez nous.
L'immigration, un faux argument en revanche, selon Paul, un franco-britannique de 50 ans. Il a voté pour le maintien du Royaume-Uni dans l'UE et il dénonce l'opportunisme de certains conservateurs comme Boris Johnson qui a fait campagne pour le Brexit.
On vit toujours des vagues d'immigration en Europe. C'est pas la première, c'est pas la dernière, donc il faut s'y faire un peu. Et tout le référendum était organisé autour d'aspirations politiques internes à certains partis. Mais je pense que la raison va prendre le dessus et on pourra maintenant continuer notre vie européenne à Londres pour plusieurs années.
Galina a également peur de sortir de l'Union européenne, mais cette mère de famille de 36 ans a voté pour le Brexit afin d'envoyer un message à Bruxelles.
Je ne pense pas que le Royaume-Uni va réellement sortir de l'UE, mais c'est l'occasion d'entendre ce que les citoyens ont à dire, ce qu'ils veulent et ce qu'ils refusent. Parce que l'Union européenne est devenue trop bureaucratique, Bruxelles n'écoute pas ce que veulent les citoyens. C'est toute la structure qui doit être réformée.
Fin de vote pour les 46 millions d'électeurs britanniques ce soir à 22h, 23h, heure française, vous le disiez Ludovic, et on devrait connaître les résultats aux petites heures demain matin.
Catherine Dutu en direct de Londres, grâce aux moyens techniques de Georges Thau, on se déplace dans un autre quartier de la capitale britannique avec notre correspondant permanent Franck Madvon. Bonjour Franck.
Bonjour Ludovic.
En ce jour de vote, on peut commencer avec vous par regarder les gros titres de la presse ce matin rapidement.
Ouais, la presse qui donne un peu le ton de la journée, la plupart des tabloïds sont eurosceptiques, vous le savez. Independence Day, titre le Sun, avec en une l'image théâtrale d'un soleil qui se lève derrière un Royaume-Uni vu du ciel. Quatre mots en une du très conservateur Daily Telegraph, The time has come, le temps est venu. Sur toute la une, on distingue Big Ben au travers d'un drapeau du Royaume-Uni, une célébration de l'identité britannique. Le Daily Telegraph est pour le Brexit. Qui voulez-vous être ? Demande le Guardian qui soutient le maintien dans l'UE et parle de la campagne la plus âpre de l'histoire du pays. Le Times, également pro-UE, publie un sondage qui donne une courte victoire au Remain 51-49.
Et donc Franck, scrutin hyper indécis tout de même, Leave et Remain au coude à coude. On a bien ce dernier sondage aussi là qui vient de paraître à l'instant. Je lis 52% en faveur du Remain. Un Remain qui est en tête depuis l'assassinat de la députée travailliste pro-européenne Jo Cox, dont on a appris d'ailleurs il y a quelques instants que son assassin présumé Thomas Mayer serait jugé en novembre. Franck, d'abord le scénario le plus simple, le scénario du reste. Remain.
Oui, le Remain, une victoire du Remain, ce serait d'abord un succès pour David Cameron. Il s'exprimera sans doute dans ce cas-là rapidement pour appeler son pays à la réconciliation. La campagne, on l'a dit, a profondément divisé le Royaume-Uni, surtout d'ailleurs le Parti conservateur. Le Premier ministre britannique se rendra ensuite au sommet européen mardi à Bruxelles. Il demandera alors à ses partenaires de l'UE d'appliquer au plus vite les réformes qu'il avait négocié et obtenu en février.
Et puis le scénario du Brexit ?
Alors là, évidemment, l'impact serait colossal. David Cameron devrait assez vite annoncer sa démission, même si il a toujours dit le contraire pendant la campagne. Il pourrait toutefois accepter d'assurer l'intérim, de prolonger son mandat, le temps de trouver un nouveau chef du Parti conservateur. Il aurait alors lui-même recours à l'article 50 du traité de Lisbonne qui prévoit 2 années de négociations pour un nouvel accord avec l'UE si un pays sort de l'Union européenne. Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, serait plus que jamais favori pour succéder à David Cameron au poste de Premier ministre. L'Écosse, qui va sans doute voter pour rester dans l'UE, se préparerait peut-être à un nouveau référendum d'indépendance. La frontière de l'UE se trouverait entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, d'où des interrogations sur le processus de paix. Et on ne parle ici que du Royaume-Uni, Ludovic. L'impact serait bien sûr considérable en Europe et dans le monde.
Franck Madvon, notre correspondant permanent à Londres, merci. Je vous présente Christian Lequen, professeur à Sciences Po et chercheur aux séries. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Votre domaine de recherche, c'est l'Union européenne, mais vous connaissez bien la problématique de la relation britannique de Grande-Bretagne et Union européenne. Vous avez été professeur à la London School of Economics, par exemple. On est sur quelque chose, ce midi, en ce jour de scrutin, de très indécis, ou si on regarde les sondages ou les bookmakers aussi, les jeux sont faits du côté du Remain.
Non, je ne crois pas. Je pense que, effectivement, on est sur une situation extrêmement, extrêmement indécise, donc très difficile de faire un pronostic clair. Vous avez raison de citer les bookmakers, ils se sont souvent moins trompés que les sondeurs en Grande-Bretagne, mais tout dépendra du taux de participation et de la mobilisation de chacun des deux camps, donc très très difficile à l'heure où nous parlons de vous donner une affirmation sur le résultat.
Il y a des électeurs qui sont très regardés, ce sont les indécis, on parle de 12% oui. Environ. Est-ce qu'on peut décrire ces indécis britanniques ?
Oui, ce sont souvent des personnes qui n'ont pas un engagement particulier en faveur de l'Europe.
Ils d'ailleurs, n'aiment pas l'Europe ou ils s'en foutent ?
Plutôt de l'indifférence, mais en tout cas, ils n'ont pas eu un engagement émotionnel en faveur de l'Europe. Ça n'existe d'ailleurs pas beaucoup en Grande-Bretagne. Hein. En revanche,
ils ne veulent pas prendre de risque.
Exactement, exactement, parce qu'il n'y a pas de précédent, on ne sait pas comment cette sortie éventuelle devrait être gérée. Et puis, ils se rendent compte quand même que 50% du commerce de la Grande-Bretagne se fait encore avec le reste du continent. Et le camp du oui, bien sûr, le camp du remain, mise beaucoup sur ce réflexe un peu réaliste, raisonnable de ces indécis.
C'est l'exemple du référendum écossais de l'an passé.
Absolument, absolument. Où on a aussi
la prudence,
le pragmatisme.
Voilà. Le statu quo, c'est dans toute l'histoire référendaire britannique, toujours le statu quo qui l'emporte à la fin.
Oui, parce qu'il n'y a jamais eu de vrai engagement britannique en faveur d'un projet politique de l'Union européenne. Donc, accepter les politiques de l'Union et puis essayer de les mettre en œuvre le mieux possible, ça, c'est effectivement le statut de ce que vous appelez le statu quo. Mmh. Et ça touche beaucoup les politiques économiques, hein, les politiques de marché en particulier.
Mmh. Alors, une chose intéressante, on ne va pas devancer le résultat, mais si effectivement le Remain l'emporte et si c'est ce statu quo qui prévaut, il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'on ne pourra pas en rester là. Le statu quo sera le résultat du scrutin, peut-être, mais au niveau de l'Union européenne, dans la relation entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, on ne pourra pas en rester là.
Oui, alors il ne faudra pas compter sur la Grande-Bretagne si elle reste dans l'Union européenne et sur le Premier ministre, M. Cameron, si c'est toujours lui, pour contribuer à une relance politique de l'Europe après les crises. Relance il y a, elle sera plutôt le fait d'autres États membres. Et là, bien sûr, on pense à la France et à l'Allemagne en particulier.
L'initiative franco-allemande bloquée par un calendrier électoral.
Oui, bloqué par un calendrier électoral et bloqué aussi par l'opinion publique. Il ne faut pas oublier quand même que dans le cas français, il y a quand même une opinion eurosceptique qui est forte.
Et le calendrier électoral, c'est la présidentielle de l'an prochain.
Absolument. En Allemagne, le calendrier électoral, c'est l'élection au Bundestag septembre 2017. Et ce pays qui n'avait pas d'euroscepticisme pendant des décennies en a maintenant avec la montée de ce parti Alternative für Deutschland.
Qui pique des voix à la CDU de la chancelière Angela Merkel.
Exactement.
Beaucoup de questions encore, beaucoup d'interrogations. Merci beaucoup Christian Lequen, professeur à Sciences Po et chercheur aux séries, d'avoir été l'invité de ce journal de la mi-journée.
Il est 12h48, suite de ce journal de la mi-journée sur France Culture, avec une actualité française, la réforme de la justice qui a du plomb dans l'aile.
Ce texte a pour nom ambitieux, Caroline, projet de loi sur la justice du 21e siècle. Il est en discussion au Parlement, sauf qu'hier soir, nos députés, nos sénateurs ne sont pas parvenus à se mettre d'accord. Il y a opposition sur la forme et sur le fond, Hélène Masquelier.
Oui, après 4 heures de discussion sur le texte, les sénateurs et les députés se sont séparés sur un constat d'échec. C'est le résultat d'une bataille parlementaire, mais aussi d'une autre bataille qui se joue entre la droite sénatoriale et le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas. Le Sénat, en novembre dernier, avait adopté le texte d'une 50aine d'articles, mais entre-temps, le nouveau garde des Sceaux a souhaité rajouter de nouvelles dispositions au projet de loi, par amendement et donc sans consultation du Sénat. Les sénateurs se retrouvent donc avec un texte qui a doublé de volume sans aucune possibilité de relecture. Et parmi les nouveaux articles, plusieurs mesures ne font pas l'unanimité. La question du divorce par consentement mutuel, par exemple, la collégialité de l'instruction ou le changement de l'état civil pour les transsexuels. La droite sénatoriale accuse donc le gouvernement d'abus de droit, mais le gouvernement, lui, clame simplement sa volonté d'accélérer la procédure. Le texte, à présent, fera l'objet d'une nouvelle lecture au Sénat et à l'Assemblée nationale. Le Sénat pourra modifier le texte à l'envi, mais c'est l'Assemblée nationale qui, de toute façon, aura le dernier mot. Et rien ne dit que les députés socialistes aient vraiment l'intention de céder sur quelques points que ce soit. Le projet de loi, si urgent, pourrait ainsi ne pas être adopté avant l'automne. C'est justement le temps pour que le débat prenne encore de l'ampleur à l'approche des primaires socialistes et républicaines. Et c'est en fait l'un des premiers textes législatifs à être vraiment impacté par les échéances électorales de 2017.
Hélène Masquelier, merci. Travail parlementaire là aussi compliqué, mais cette fois en matière de protection de l'environnement et de santé publique. Nos parlementaires ont bien du mal à taxer l'huile de palme. 3 fois que le législateur tente depuis 2012 de créer ce qu'on surnomme souvent la taxe Nutella en référence à l'utilisation de cette huile dans la célèbre pâte à tartiner. Ils sont revenus sur leur intention de taxer autant cette huile que l'huile d'olive par exemple, après des protestations de 2 principaux producteurs mondiaux, l'Indonésie et la Malaisie. On continue d'explorer le travail de nos parlementaires sur ce même projet de loi d'ailleurs, ce même texte biodiversité. C'était donc la nuit dernière à l'Assemblée nationale, s'ils ont renoncé à davantage taxer l'huile de palme. Eh bien, ils ont décidé d'interdire les pesticides nuisibles aux abeilles. Ce sont les pesticides néonicotinoïdes. Mais l'interdiction ne vaut que dans plus de 2 ans, à partir de septembre 2018. Et il y a même des dérogations possibles jusqu'en 2020, Anne-Laure Barral.
Les apiculteurs sont vent debout contre ce vote très serré, alors qu'ils avaient reçu la semaine dernière le soutien de la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, pour une interdiction ferme en 2018. Ils ont finalement découvert son projet de dérogation jusqu'en 2020. Pourtant, Henri Clément, porte-parole de l'Union nationale de l'apiculture française, rappelle qu'il y a urgence à agir.
L'apiculture professionnelle est à l'agonie dans les zones de grande culture. C'est inacceptable. En raison de l'utilisation de ces pesticides, le taux de mortalité qui était de 5% est passé à 30%. Et c'est dramatique pour l'apiculture française.
Au-delà de la production de miel et de la pollinisation des cultures, les néonicotinoïdes posent aussi des questions de santé publique, selon Sophie Bordère de l'association Génération Future.
Qu'on est exposé par l'alimentation, Génération Future a fait des enquêtes où, en analysant des courgettes, des tomates, du thé, on retrouvait des néonicotinoïdes. On est vraiment pour l'interdiction de ces néonicotinoïdes d'ici à 2018, parce que d'ici à 2020, ça serait attendre beaucoup trop longtemps.
Le débat n'est pas fini, puisqu'une ultime navette du texte est prévue entre l'Assemblée et le Sénat pour un vote définitif mi-juillet.
On referme ce journal avec cette plainte américaine contre une entreprise française, pas n'importe laquelle, un géant du CAC 40, Veolia, poursuivi outre-Atlantique par l'État du Michigan pour fraude et négligence. On est là encore sur des sujets environnementaux. Qu'est-il reproché au groupe français Odrazo ?
Eh bien, on parle là d'un énorme scandale sanitaire. Il a éclaté l'année dernière. Ça se passe à Flint, une ville de 100 000 habitants au nord de Détroit, où pendant plus d'un an, les habitants ont bu de l'eau contaminée au plomb. Il y a déjà des poursuites dans cette affaire. Elles sont en cours, mais jamais jusque-là, le nom de Veolia n'avait été mis en cause. Cette fois, le géant français est accusé d'avoir joué un rôle indirect, d'avoir aggravé la situation. Veolia intervient en fait à Flint en février 2015. L'entreprise signe un contrat avec la ville pour vérifier que l'eau est potable et les conclusions sont positives. Pourtant, ça fait des mois que les habitants se plaignent de cette eau qui a une couleur étrange, un goût étrange. Certains souffrent de vomissements, de rougeurs, de démangeaisons. Quelques mois plus tard, le scandale éclate, l'eau est acide, beaucoup trop acide. Elle ronge les canalisations, elle libère le plomb qui compose les tuyaux. Veolia a lamentablement échoué, conclut le ministre de la Justice du Michigan. Le groupe français, lui, se défend. Son travail à Flint, dit-il, n'a jamais été de tester la teneur en plomb, ce n'était pas dans le contrat. Quant à la corrosion dans les tuyaux, c'est au service de l'État de la contrôler, dit-il encore. Veolia risque gros, les dommages réclamés par la justice pourraient atteindre plusieurs centaines de millions de dollars.
Audrey Azo, merci. Le temps de ce jeudi 23 juin 2016, une météo estivale, vous l'avez remarqué, sauf pour 15 départements du Nord et de l'Ouest en alerte orange, une situation fortement orageuse en Bretagne, en Normandie, en Nord-Pas-de-Calais, en Picardie. On parle de possibles grêles et de fortes rafales de vent. Les températures cet après-midi de 18 à 25 degrés dans cette zone orageuse, 29 à 34 degrés ailleurs. Les maximales sont pour le nord de la Garonne et la vallée du Rhône. Édition préparée avec Yacine Bouzard, prochain journal 18 heures, t'arraches les gueules.